Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir et bienvenue sur Backseat, bonsoir. Bonsoir le public, bonsoir Twitch. Bonsoir à vous, très heureux de vous accueillir dans cette émission exceptionnelle. Comme tous les jeudis, on va parler de politique, chers amis. Bonsoir aussi si vous nous regardez en replay sur YouTube. Bonsoir si vous nous écoutez en podcast, très heureux de vous accueillir. Sur ce plateau ce soir, une émission exceptionnelle. Comme chaque jeudi, on va parler de l'actualité politique avec mes chroniqueurs et chroniqueuses. On va recevoir une invitée politique de premier plan qui va venir répondre à nos questions. Mais avant ça, comme chaque semaine, on commence avec un before, l'occasion pour nous de faire un zoom sur un sujet qui nous intéresse particulièrement et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Cette semaine, on a décidé de faire une spéciale pour parler de la lutte contre le harcèlement scolaire. Et pour ça, j'ai un plateau rempli d'invités de très très grande qualité que je vais inviter les uns après les autres à venir s'installer autour du plateau. On commence avec Hugo Martinez. Hugo Martinez qui vient s'installer. Hugo qui a créé l'association Hugo en 2018. Ce qui vient en aide aux élèves victimes de harcèlement. Tu nous raconteras ça. Salut Hugo. Et la famille. Tu vas nous en parler. Merci à toi Hugo d'être avec nous. J'appelle aussi à venir nous rejoindre Catherine Jacquet. Catherine Jacquet qui vient s'installer à côté de toi. Catherine, bonsoir. Catherine, tu es la vice-présidente de Marion la Main Tendue, une association qui, elle aussi, lutte contre le harcèlement. On va en parler. Merci d'avoir accepté de venir, Catherine. Et on continue avec Sophie Vénétité. Sophie Vénétité qui vient s'installer. Sophie, tu es prof de sciences économiques et sociales dans l'Essonne et tu es, par ailleurs, la secrétaire générale du SNES-FSU, le premier syndicat de profs. Merci d'être avec nous, ça fait plaisir, merci Sophie. Et on termine ce tour de table avec Laurent Kaufmann. Laurent Kaufmann qui s'installe avec nous, secrétaire général du SGEN-CFDT. Le SGEN-CFDT est lui aussi un syndicat de l'éducation nationale qui représente les personnels de direction des établissements, c'est ça ?
Qui représente tous les personnels qui travaillent dans l'éducation nationale. Je suis secrétaire fédéral, le secrétaire général c'est une femme, c'est Catherine Navbekti. Moi je suis secrétaire fédéral et on syndique toutes les professions de l'éducation nationale.
Toutes les professions, d'accord, ok. Et ben merci à toi aussi Laurent d'être avec nous. Chers amis, merci vraiment d'avoir accepté de venir parler de ce sujet. La rentrée scolaire a eu lieu il y a quelques semaines maintenant. La question du harcèlement scolaire a fait l'actualité, tristement, après le suicide de Nicolas notamment, dont on a eu l'occasion de parler nationalement, c'était au début du mois. Quand on parle du phénomène de harcèlement scolaire, est-ce que toi, Hugo, tu peux nous expliquer qu'est-ce que ça recouvre, ce phénomène ?
Ça recouvre plusieurs formes, le harcèlement scolaire. On parle souvent, et de façon très largement, du cyber-harcèlement scolaire. C'est la forme la plus connue aujourd'hui, parce que c'est celle qui, finalement, fait qu'on devient constamment victime de harcèlement scolaire, au-delà des murs de l'école. C'est-à-dire qu'avant, il y a quelques années, moi, c'est arrivé finalement assez tardivement, dans ce qui me concerne, en tout cas, dans ma situation, mais avant, on avait ce mur de l'école qui faisait la limite avec le harcèlement scolaire qu'on vivait. Donc, le cyberharcèlement, c'est la forme la plus répandue. Mais il y a d'autres formes. Il y a le harcèlement qu'on appelle social, donc ce fameux isolement, où on est, en fait, finalement, quand c'est des groupes classes qui se forment pour des exposés, par exemple, je pense, ou quand il faut trouver un binôme, ouais, on est isolé. Ouais. Et après, il y a des formes autres, donc le harcèlement physique, les coups, les bousculades, le harcèlement verbal, les insultes, et il y a aussi le harcèlement sexuel qui peut être aussi une forme de harcèlement scolaire. Voilà, ce sont les 5 formes de harcèlement scolaire.
Un phénomène assez grave. Alors, je ne sais pas s'il y a une évolution récente du phénomène. Toi, Sophie, en tant qu'enseignante, c'est quelque chose que tu vois, dont tu peux témoigner aussi sur le harcèlement à l'école ?
Oui, c'est surtout la hausse du cyberharcèlement qui est assez frappante ces dernières années, parce que c'est des choses en fait qui peuvent nous échapper, qui continuent en dehors de l'école, comme le disait Hugo, et on voit bien qu'avec l'explosion des réseaux sociaux, ça a joué, et des élèves qui nous disent, qui viennent se confier à nous, parce qu'il y a des élèves qui viennent se confier à nous. Alors après, c'est tout le débat, quand est-ce qu'ils viennent nous parler, comment est-ce qu'on traite la parole, mais aujourd'hui, c'est une réalité que le harcèlement prend de multiples formes. Et que c'est pas évident à gérer et que c'est tout l'enjeu auquel on doit répondre.
Eh bien, merci à toi, Sophie. Parlez bien devant le micro, je le dis, ils m'ont dit dans l'oreillette, voilà, parlez bien devant le micro. Le harcèlement scolaire, c'est un phénomène dramatique contre lequel il faut lutter et c'est un phénomène qui peut avoir des conséquences très graves. Est-ce que Catherine, tu peux nous expliquer les circonstances dans lesquelles est née l'association Marion la Main Tendue ?
Moi, je voulais juste préciser, le harcèlement, c'est effectivement ce qu'on vient de tous de dire, mais le harcèlement, c'est un phénomène de meute. En fait, dans le harcèlement, il y a le harceleur, le harcelé et les témoins. Et ce phénomène de meute fait que le harceleur est seul, et est en groupe, pardon, par rapport au harcelé qui se retrouve isolé et seul. Et cette meute, en fait, il y a une espèce de domination qui est vraiment prédominante et qui est vraiment dangereuse. Et il y a les témoins, sur lesquels on travaille tous dans nos associations, mais sûrement pas assez, puisque les témoins, qu'ils soient actifs ou passifs, restent les personnes très importantes, parce que justement, pour libérer la parole, il faut en parler.
Donc, tu l'as dit, toi, Marion l'a maintenu, vous travaillez sur les témoins, mais vous travaillez sur tout le phénomène. C'est quoi votre rôle exactement ?
Donc, en fait, nous, on est une association qui permettons justement aux familles de pouvoir relever des situations, d'intervenir. On a des maisons de Marion où les familles et les enfants viennent, parce qu'on a des pédopsies qui sont là, qui nous accompagnent, qui viennent pour essayer de se sortir justement de ce fléau. Et on intervient dans toutes les structures éducatives, principalement scolaires, mais périscolaires aussi, pour justement, dès la petite classe, pour justement accompagner les professionnels, les enseignants, envers lesquels la situation n'est pas simple. Un enseignant, aujourd'hui, porter ce sujet-là, il n'est pas forcément formé, et même s'il l'est, il n'a pas forcément l'envie ou la possibilité d'intervenir sur ce sujet dans les classes. Donc, en fait, nous, on est vraiment complémentaires. On intervient et on permet de libérer la parole puisque l'enfant, le jeune, n'est plus dans sa situation de classe traditionnelle où il va être évalué, où il va avoir peut-être peur de libérer la parole. Il est avec nos accompagnants, avec un contenu pédagogique qui fait qu'on est entre nous, il n'y a pas de jugement et on peut en parler. Et chacune de nos interventions, même si on est appelé dans des établissements où il n'y a pas de harcèlement, bah, comme par hasard, on ressort avec effectivement des enfants et des jeunes en souffrance.
Laurent, je me tourne vers toi. Alors, je suis désolé, tout à l'heure, effectivement, dans ma tête, j'ai compris, je vous ai confondu avec le SNPDEN, qui lui est un syndicat spécifique des personnels de direction. Excuse-moi, SGEN-CFDT, donc vous aussi, personnel de l'éducation nationale. À quel point est-ce que le phénomène du harcèlement scolaire est quelque chose de propre à la maison éducation nationale ? Est-ce que c'est seulement une sorte de dysfonctionnement interne ou est-ce que c'est quelque chose qui est plus large et qui concerne toute la société ?
Alors, je crois que c'est plus large et que ça concerne toute la société. Sophie l'a dit, ça s'est amplifié en plus avec les réseaux sociaux. Après, on accueille quasiment 100% d'une classe d'âge aujourd'hui dans l'éducation nationale. Le concept de harcèlement, il a pratiquement une cinquantaine d'années. La France a un retard considérable sur le sujet. Par rapport à d'autres pays.
Ah, okay,
les pays du nord de l'Europe se sont occupés de cette problématique il y a bien longtemps et influencent d'ailleurs les programmes de formation qui sont mis en place depuis trop peu de temps, malheureusement, dans notre institution. Mais parler du harcèlement, c'est parler du climat scolaire, en fait.
Oui,
et donc, c'est parler de cette manière dont on accueille les élèves individuellement et en groupe et la façon dont on travaille les adultes individuellement et en groupe. Les enseignants sont souvent très seuls dans leur classe. Et effectivement, il y a souvent une relation de confiance qui se noue et les élèves vont venir confier une situation, mais c'est pas forcément évident pour les enseignants. Et un des réflexes à mettre en place, c'est une logique d'équipe. Mais pour faire ça, il faut du temps et il faut des personnels et il faut une formation. Mais c'est un sujet dont on s'est emparé en France, encore une fois, très tardivement. Et on évalue à 10% des élèves. On accueille 12 millions d'élèves dans le système éducatif.
Ouais.
On évalue à 10% des élèves qui vont avoir à un moment donné un parcours qui peut être proche du harcèlement, c'est-à-dire potentiellement 1 million 200 000 élèves.
C'est absolument phénoménal. C'est absolument phénoménal. Hugo, tu hochais de la tête quand tu disais qu'à l'étranger, il y a des exemples de pays qui s'en sortent mieux. Tu nous en parles un peu ?
En fait, il y a aussi on est dans une société. Si je prends un parallèle avec le Covid, par exemple, les pays nordiques, ils n'avaient pas besoin d'amende par rapport au non-port du masque. Donc c'est vrai qu'en fait, il y a beaucoup de méthodes qui existent, notamment dans les pays nordiques. Au Danemark, le ministre y est allé en immersion la semaine dernière. Mais je crois qu'il faut faire attention, et le porteur lui-même de cette méthode, qu'on appelle la méthode PICAS, la préoccupation partagée, qui est la méthode un peu phare, au-delà des cours d'empathie, le disait en 2021, avant qu'il, malheureusement, j'ai eu l'occasion de le rencontrer lors du Forum mondial contre le harcèlement scolaire, avant qu'il ne disparaisse.
De qui tu parles ?
Anatole PICAS.
Anatole PICAS, d'accord.
Qui est vraiment le créateur de la méthode de la préoccupation partagée, qui est vraiment méthode utilisée aujourd'hui de façon un peu modèle. Il disait, il y a deux choses. D'abord, la méthode que j'ai créée, elle a été créée en 1980, quand il n'y avait pas les réseaux sociaux. Première chose.
Ouais.
Deuxième chose, cette méthode, elle a été créée pour des sociétés nordiques qui sont très civilisées. Je ne dis pas que nos sociétés ne sont pas civilisées, mais en tout cas, qui savent de façon plus autonome respecter les lois. Que nous, nos pays méditerranéens, forcément, on a un peu plus tendance à avoir besoin de ce cadre, on va dire, qui n'existe pas forcément dans les pays nordiques. Donc, il faut faire attention. Moi, je rêve qu'on et je sais que le ministre va relancer la recherche universitaire sur le sujet. On pourrait tout à l'heure en parler peut-être avec la ministre.
On va en parler.
Va relancer le sujet de faire, en tout cas, ce travail de pouvoir créer une méthode à la française sur le sujet du harcèlement scolaire et adapté à nos sociétés.
Et une petite.
Vous avez tous Catherine Champry, vas-y.
Si tu peux me permettre, c'est que au Danemark, la taille du pays n'est pas la nôtre.
Oui.
Donc, on peut pas fonctionner de la même manière. Et par contre, dans ces pays nordiques, ils ont une chose qui est extrêmement importante. C'est pour ça que Gabriel Attal y est allé, c'est qu'ils ont mis en place des cours d'empathie. Enfin, ils travaillent autour de tous les comportements psychosociaux. Ça, c'est un vrai exemple. Mmh. Ça, c'est un vrai exemple pour nous tous, oui. Tous, demain, dès la maternelle. Accompagner le vivre ensemble. Comment est-ce qu'on travaille ensemble? Comment est-ce qu'on se positionne avec soi-même? Comment est-ce qu'on ressent, qu'on ressort ses émotions? Comment est-ce qu'on s'intègre dans un groupe? Et ça, ces pays-là sont extrêmement avancés. Et ça, c'est un bel exemple.
C'est une référence intéressante, effectivement. Vous avez tous, à un moment ou un autre, évoqué la particularité des réseaux sociaux, en fait.
Ouais.
Les réseaux sociaux, c'est une particularité. C'est-à-dire que dans sa poche, dans son téléphone, la victime de cyberharcèlement rentre à la maison avec le cyberharcèlement qui la suit. Ça, c'est ce que t'expliquais, Hugo.
Oui, c'est-à-dire que c'est permanent, même les vacances scolaires d'été. On oublie souvent cette période. En fait, c'est une période où on ne parle même plus de harcèlement scolaire. Alors là, cette année, ça a été particulier parce qu'il y a eu quelques cas qui sont remontés pendant les vacances scolaires. Mais je trouve que c'était assez intéressant. Alors, bien sûr, triste pour la famille concernée, mais assez intéressant de resensibiliser cet été. C'est-à-dire que le harcèlement scolaire, il s'arrête pas, même pendant les vacances scolaires. Non, juste, je voulais revenir, moi, sur les chiffres, en fait, qui sont évoqués. En effet, le ministre va réactualiser ces chiffres, parce que ce sont des chiffres qui datent de 2010. Qui n'ont pas
sur
été...
le phénomène, ouais.
Ouais, les 10%, ce sont les chiffres de 2010. Il était temps qu'on les réactualise, ces chiffres, parce que là, le ministre l'a dit hier, hein, on a un flot de témoignages qui arrive, 3 fois plus de témoignages par rapport à la rentrée 2022, en septembre. Et là, ce formulaire d'auto-évaluation va être distribué à tous les élèves de France, à partir de la CE2, et ça va être entre 8 et 9 millions d'élèves concernés par ce formulaire, le 9 novembre. Et ça va permettre d'avoir un scope plus concret de ces chiffres, et ça va être 2 fois par an. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez inédit, et je pense que de toute façon, tout ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Donc il fallait qu'on mesure et qu'on puisse voir l'évolution et voir vraiment l'impact en chiffres du cyberharcèlement.
Je me tourne vers toi, Sophie, parce que vous, les profs, on connaît la difficulté de votre métier, mais accueillir la parole d'une victime, mettre en place ce qu'il faut probablement mettre en place pour l'accompagner, mettre fin au harcèlement, etc., ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Est-ce que ça fait partie de votre fiche de poste de prof? Est-ce que vous avez le temps? Est-ce que vous avez les moyens?
Alors, ça doit faire partie de ce qu'on peut faire, puisqu'après tout, on noue aussi une relation de confiance avec les élèves. Donc, on sait qu'il y a des élèves qui vont venir se confier à nous. Il y a des élèves qui vont préférer se confier au conseiller principal d'éducation, à l'infirmière, au surveillant. Mais oui, on sait qu'il y a des élèves qui vont venir se confier à nous. Moi, ça a été le cas. Il y a une élève, il y a 3 ans, qui est venue se confier à moi à la fin d'un cours. Et la grande solitude qui est la nôtre, c'est qu'on n'est pas préparé à ça.
C'est un problème de formation en partie, ouais.
C'est un problème de formation. Il faut se rendre compte ce que ça veut dire un ou une élève qui vient à la fin du cours et qui vient vous dire avec ses mots, avec son émotion, avec ses doutes, qui vient vous dire voilà ce qui se passe. Et nous, on n'est pas préparé à ça, on n'est pas formé. Moi, ça va faire 14 ans que j'enseigne. Je n'ai jamais eu une seule formation sur la question du harcèlement. Donc oui, on peut jouer un rôle. On ne peut pas le jouer tout seul, parce que la lutte contre le harcèlement, c'est une question d'équipe. Il faut que les élèves entendent que oui, on est là pour recueillir leurs paroles, mais on sera là en équipe. Parce que tout seul, on est complètement démunis et on ne peut pas être efficace. Et dans les réponses qui doivent être apportées là très rapidement, c'est la nécessité d'avoir tout simplement plus d'adultes dans les établissements scolaires et plus d'adultes formés, parce que cette grande solitude... Je crois qu'on l'a toutes et tous ressenti quand un élève est venu se confier à nous. Et ces derniers jours, Hugo parlait de la libération de la parole. Je crois que le ministre en a parlé aussi hier. Nous, depuis quelques jours, on a des retours de nos collègues conseillers principaux d'éducation qui nous disent on est submergés par des témoignages, mais on est tout seul et on ne sait pas quoi en faire.
Et on ne sait pas quoi en faire.
Et c'est absolument terrible.
Alors, je t'en prie, Laurent, vas-y.
L'école peut pas et ne doit pas rester seule sur ce sujet-là. Oui. Nous, au SGEN CFDT, on est quand même assez sur l'idée d'un projet éducatif de territoire.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a du relais, enfin, il y a des choses qui se révèlent à l'école. Il y a des choses, Hugo l'a très bien dit, mais il y a des choses qui commencent le week-end sur les réseaux sociaux, qui arrivent au collège le lundi, qui explosent. Et en fait, il y a toute une partie invisible qu'on comprend pas. Il va falloir un peu de temps pour déplier ça. Et puis derrière, il y a besoin, Sophie a complètement raison, on le dit, nous, en tant qu'organisation syndicale, c'est qu'il y a besoin d'adultes formés et qui accompagnent. Mais il y a aussi la nécessité d'orienter ensuite, parce que tout ne peut pas se traiter, se résoudre à l'école. Et donc, il y a un maillage de territoire à faire avec les services de santé, avec les services de police qui peuvent être aussi dans une démarche de prévention. Il y a des choses qui se passent avec la police, contrairement à ce qu'on peut penser, avec la justice, évidemment, parce qu'il y a aussi cette nécessité de suivre. Et puis, c'est un phénomène complexe. En même temps, enfin, la recherche, y compris la recherche internationale, souvent des élèves qui sont harceleurs ont été harcelés. C'est quelque chose. C'est très bien de développer un volet sanction, c'est important, mais il faut comprendre aussi un peu ce qui se passe, à un moment donné dire stop. Mais il y a des parcours d'élèves qui, à un moment donné, ont été victimes de ça et reproduisent quelque chose. Donc, c'est vraiment complexe et l'école ne peut pas et ne doit pas rester seule avec ça.
Et il y a une forme de réponse, je te donne la parole tout de suite, il y a une forme de réponse à une question que je me posais sur oui, mais attention, ne mélangeons pas tout, l'éducation, l'école est faite pour enseigner, c'est aux parents d'éduquer, c'est pas la même chose, on sépare les choses. Qu'est-ce que tu réponds à ça, Hugo ?
Je crois que moi, je voudrais reprendre l'exemple qu'on a développé, nous, notamment dans le Rhône, à Mordan, c'est une ville au sud de Lyon, qu'on a, en fait, on a développé un modèle unique en France, et j'ai soumis cette idée au gouvernement, et notamment à la première ministre hier à Matignon. À Mordan, on a développé un modèle assez unique, où en fait, on a mobilisé toute la ville. En fait, sur le sujet du harcèlement scolaire. C'est-à-dire qu'on a mobilisé la mairie, il y avait un accueil pour les victimes, il y avait des formations, des sensibilisations, alors sensibilisation auprès des élèves, des parents également, on avait des cafés-débats ou des soirées-débats aussi également, on avait des événements sur toute la ville, donc vraiment le dimanche, par exemple, avec une fresque. En fait, on a montré que le harcèlement scolaire, la réponse, elle ne se fait pas qu'à l'école. Mmh. Je crois que c'est aussi le sens de la réponse hier du plan interministériel. Et puis, deuxième chose, sur la question en effet des harceleurs, je crois qu'il ne faut pas les stigmatiser. Dans 9 cas sur 10, en effet, on a des enfants qui souffrent autant qu'ils font de mal. Ce sont des enfants qui ont un complexe physique, intellectuel, sportif, quel qu'il soit. Et en fait, finalement, ils ont cette capacité de leader une classe, de leader un groupe que le harcelé n'a pas. Et donc, ils ont réussi à mettre en lumière quelqu'un d'autre pour eux, en tout cas leurs difficultés, qu'elles restent dans l'ombre. Et c'est ça qu'il faut bien prendre en compte. Alors, bien sûr, il y a des récidives, et là, donc, il faut que ces récidivistes, on soit ferme avec eux. Il y a des cas particuliers connus des services de police. Je reprends cet exemple du jeune de Alfortville, où tout le monde s'est insurgé.
Qui a été arrêté dans la classe ?
Alors, attention.
Tu parles de celui-là ?
Celui-là, oui, ouais. Mais attention, ça n'était pas dans la classe, c'était dans le couloir. Adjoint à la classe, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un surveillant qui est venu.
Pendant la pause.
Pendant la pause, qui est venu récupérer l'élève dans la salle de classe. Ce surveillant, il l'a ramené dans le couloir. Et là, dans le couloir, il y avait les policiers. Je crois que c'était un très bon exemple. Ce jeune était connu de service de police.
Il y a un moment. Mais pour des faits de harcèlement ?
Non, il était connu de façon plutôt négative des services de police. Mais il y a un moment aussi, en effet, il faut que les parents soient associés. Il faut qu'il y ait une espèce de contrat moral qui existe entre l'école. Les parents, alors quand je dis l'école, que ce soit les proviseurs, que ce soit les professeurs, etc., les parents, les enfants et toute la société citoyenne et civile. Je veux dire, il y a un moment sur la santé, sur la question de l'après, c'est au-delà du scope de l'éducation nationale. Quand il faut se reconstruire, quand il faut reconstruire et accompagner ses élèves dans leur reconstruction, c'est le sens. Ça peut pas être l'éducation nationale. Le métier premier de l'éducation nationale, c'est enseigner. Je pense que. Et donc, du coup, il y a dans le sens des mesures qui ont été annoncées, notamment cette augmentation du nombre de séances psy offertes à toutes les victimes, prises en charge à 100%. C'est intéressant et c'est important. C'était vraiment le cheval de bataille sur lequel on luttait.
Alors, on en a parlé un peu rapidement. Ce plan interministériel de lutte contre le harcèlement à l'école a été annoncé hier. C'est la première ministre en personne, Elisabeth Borne, qui a présenté ce plan. C'est déjà un signal en soi. Je ne suis pas sûr d'avoir déjà vu un Premier ministre, donc chef d'un gouvernement, annoncer lui-même ou elle-même un plan de cette nature-là. Et donc, le plan a été annoncé. Au menu, je vous en donne quelques extraits des décisions qui ont été prises. Des remontées systématiques au procureur de la République en cas de signalement. Un seul numéro, le 3018, au lieu des deux qui existaient avant. Formation de tous les personnels. Des référents académiques qui vont être nommés sur cette problématique. Confiscation définitive du téléphone portable. Et la promesse d'une lutte implacable jusqu'à la fin du quinquennat. Ça, c'est le fameux effet priorité. Bon, vous, les associations, Catherine, est-ce que ça correspond à vos attentes? Ce qui a été annoncé hier.
Alors, bien évidemment, parce qu'on voit qu'il y a une véritable volonté politique, donc c'est un grand changement. Le harcèlement, il a toujours existé, comme on est en train de le dire. Il a pris des changements et des directions différentes, beaucoup plus violentes ces dernières années. Nous, on a participé aux Assises en 2001, où les Américains sont venus, les associations, nous présenter le phénomène de harcèlement. Regardez, on se disait « harcèlement ». Le mot est fort, c'est quoi, c'est comment. Et on n'a pas pris mesure. On a commencé en 2012 à faire un peu de vidéos, enfin, présenter un projet, on a commencé à construire un peu des outils, mais on est allé trop doucement parce qu'on n'a pas mis de moyens en face. Et puis, il y a eu le programme phare, là, qui est le grand programme de l'éducation nationale, qui a matière quand même à apporter bon nombre de solutions et d'outillages. Mais on n'a pas été assez rapide, on n'a pas été assez présent, faute de moyens. Donc, ce plan-là, faute de moyens, et surtout, ce que moi, je trouve extrêmement bien dans ce plan-là, c'est le fait de travailler ensemble. Puisqu'on voit bien que le harcèlement, il n'est pas à l'école, c'est 92% à l'école. Mais il est ailleurs, dans la rue, dans le bus, dans son centre sportif, dans son centre de loisirs. Donc le fait est de pouvoir associer comme ça l'ensemble des ministères où chacun a pris une responsabilité, où chacun a un engagement, ça c'est une vraie nouveauté, déjà dans notre gouvernement de travailler de cette manière-là, mais qui plus est sur un sujet comme ça autour de la protection de l'enfance. Parce que quand on parle de protection de l'enfance, t'as raison, on parle de violence, on parle d'inceste, on parle de tout ce qui est en train de remonter aujourd'hui, des sujets qu'on n'avait pas forcément abordés parce qu'on n'avait pas libéré la parole. Donc aujourd'hui, ça y est, enfin, on prend les mesures des situations.
Juste une question, c'était quoi le programme phare qui existait avant et pourquoi ça n'a pas marché du coup ?
Alors il existait pas depuis très longtemps. En fait, on a participé, nous, on a construit de l'outillage pour le programme phare. C'est un programme qui consiste à sensibiliser, à former, à prévenir. Donc les enseignants ont toutes des modules de formation et d'accompagnement. À l'intérieur, il y a les élèves qui peuvent devenir des élèves ambassadeurs. Il y a plein d'étapes en fait qui permettent de. Mais le problème, c'est qu'on l'a expérimenté juste avant le Covid, notamment à l'Académie de Versailles. On n'a pas eu le temps d'avoir les retours de l'expérimentation. En suivant, on l'a lancé à grande échelle. Maintenant, il y a un an. Et quand on voit effectivement, vous serez mieux placé que moi pour en parler, mais le nombre d'écoles et d'établissements, c'est impossible en un an.
Il y a un petit peu plus longtemps, en fait, ça fait trois ans, mais c'était d'abord sur les écoles, puis sur les collèges, et là, il va arriver sur les lycées. Mais voilà. Et c'est l'idée d'avoir dans chaque établissement 5 personnels, et là aussi, c'est une logique qui est intéressante, parce que c'est une logique intercatégorielle, c'est-à-dire que ça ne repose pas que sur les épaules des enseignants, que sur les épaules des CPE. Alors, encore une fois, il faut des établissements où on a des équipes complètes et constituées, mais ça peut être un assistant d'éducation, une assistante sociale, un CPE, un enseignant, et avec l'idée de aussi, pour moi c'est quelque chose d'absolument essentiel sur lequel l'institution scolaire française doit progresser, c'est la prise en compte des élèves. Et c'est le fait que les élèves soient aussi formés et acteurs de prévention, parce que Catherine, tu l'as dit, il y a un problème de témoins qui ne parlent pas. Et qui renforce aussi l'isolement de la victime, et on s'aperçoit quand on déplie des situations qu'en fait, parfois, il y avait quand même pas mal de gens qui savaient qu'il se passait quelque chose. Et je crois qu'il faut apprendre ça aujourd'hui. Ça s'apprend, on se forme. Et encore une fois, on n'est pas plus bête que les autres. Mais puisqu'on a pris du retard, regardons comment on fait les autres pays. Les cours d'empathie, le fait que, on a des émotions, on vit avec des émotions, les adultes aussi. On n'est pas formés là-dessus. Ça, c'est aussi un vrai sujet. Mais du coup, que les élèves sachent qu'il y a des personnes dans l'établissement à qui on peut aller s'adresser pour dire là, un tel, visiblement, il a quand même un gros souci.
Il y a quelqu'un dans le chat qui dit « Je suis enseignant à l'Académie de Versailles et je me suis inscrit à la formation du dispositif phare. » Et écoute,
génial.
Bravo à toi, c'est chouette.
L'Académie de Versailles étant l'académie qui fait partie de l'expérimentation.
Oui, absolument. Quand on reparle de ce plan interministériel qui a été présenté hier, je me tourne vers toi, Sophie, parce qu'on a l'impression quand même que le gouvernement s'est beaucoup appuyé pour la préparation de ce plan sur le dialogue avec les parents d'élèves, sur le parole avec les associations, avec les élèves. Et quelle a été votre place à vous, le personnel enseignant, dans les échanges pour préparer ce plan?
Alors nous, on a été reçus par Gabriel Attal lundi matin, donc 48 heures avant que le plan soit dévoilé. On a bien vu qu'il y avait des choses qui étaient déjà assez ficelées. Après, qu'il y ait une mobilisation générale pour lutter contre le harcèlement en milieu scolaire, c'est une très bonne chose. On l'a vu hier. C'est vrai que malgré tout, il y a quelques angles morts dans le plan qui a été présenté. À mon sens, il y en a deux qui sont quand même très importants. D'abord, je le disais tout à l'heure, il nous faut un nombre d'adultes suffisant dans les établissements scolaires. Moi, je remarque quand même que tout le paradoxe, c'est que Gabriel Attal a annoncé le plan hier, le même jour où il a annoncé que dans le budget 2024, il y aurait 2500 suppressions de postes d'enseignants. Et il n'y aura pas, et il n'y a pas eu d'annonce sur des créations de postes de psychologues de l'éducation nationale, d'infirmières scolaires, de surveillants, je pense notamment aux surveillants, parce que les surveillants, ils sont souvent en première ligne pour recueillir la parole des élèves. Ça a été dit, tout ne se joue pas à l'école, mais il y a beaucoup de choses qui se jouent à l'école. Et si on n'est pas suffisamment nombreux pour recueillir cette parole-là, pour accompagner nos élèves, on risque de passer à côté de certains cas. Et l'autre élément qui me semble très important, et que moi j'ai un peu regretté, mais je trouve qu'on a vu le ministère ce matin, et j'ai eu l'occasion de le dire, on parle d'empathie dans le premier degré, et c'est très bien de pouvoir faire en sorte que les élèves, dès le plus jeune âge, soient sensibilisés à ça. Ne pas oublier que au collège et au lycée, on a aussi un gros travail à faire sur la question de la prévention. Bon. Et moi, je dis souvent une chose, et je l'ai redit, la prévention et la lutte contre le harcèlement au milieu scolaire, c'est apprendre à vivre ensemble. Parce que pourquoi est-ce qu'il y a des élèves qui en harcèlent d'autres? C'est parce qu'ils n'acceptent pas la différence. Ils n'acceptent pas que des élèves soient différents, qu'ils soient gros, qu'ils soient gays, que des élèves soient lesbiennes. Il est là le cœur du harcèlement. Et donc finalement, le rôle de l'école, ça doit être de réapprendre à vivre ensemble et à tolérer la différence. Et de ce point de vue-là, en collège et en lycée, on a assez peu de choses sur les mesures de prévention et on doit en revenir à ce qu'est le cœur de l'école. C'est apprendre à vivre ensemble, lutter contre le harcèlement, c'est apprendre à vivre ensemble. Et moi, je trouve ça un peu dommage que, par exemple, tous les plans de lutte contre les LGBTI-phobies, de lutte contre le racisme, d'apprentissage de la citoyenneté n'aient pas été encore réactivés. Alors, je vais dire encore, parce que j'ose espérer que sur ce thème-là, il va y avoir une mobilisation générale. Mais c'est quand même des points sur lesquels il va falloir que le ministère travaille très vite. Des embauches, le nombre d'adultes et la prévention à tous les âges, et pas seulement chez les plus petits, parce qu'il se passe des choses très dures en collège. Oui. Il ne faut pas l'oublier. Il se passe des choses très dures en collège et il ne faut pas oublier cette situation-là.
Ces fameux cours d'empathie dont on a parlé, dont beaucoup de gens parlent sans absolument savoir ce que c'est. Moi, je vais poser la question. Qu'est-ce que c'est et qui va les donner ?
Alors, qui va les donner ? Ça va être notamment, je crois que Gabriel Attal a mobilisé dès ce matin le Conseil supérieur des programmes, il me semble, donc, qui va travailler sur le contenu de ces cours spécifiques d'empathie. L'empathie, c'est quoi ? C'est notamment quand on est derrière un écran, que du coup, on n'a pas la personne en face. Comment est-ce qu'en tant qu'élève, le message, la vidéo ou la réaction que je vais lui envoyer, comment est-ce qu'il va la prendre finalement ? Comment est-ce que moi, si j'étais à sa place, comment est-ce que je réagirais ? C'est se projeter la place de l'autre, en fait, de l'élève qui est en face. Alors ça, sur le cyber, mais dans la cour de récréation au sens figuré, bien évidemment pareil. Ouais. C'est de se dire, en fait, bon, bah, moi, si je me mettais à la place, comment est-ce que je réagirais ? Est-ce que je le prendrais bien ? Si je le prends mal, c'est qu'il y a quand même de fortes chances que le jeune camarade à qui je le fais, bah, il le prenne aussi mal. C'est vraiment ça, l'empathie.
D'accord.
Et c'est vraiment de travailler ça dès le plus jeune âge, avec la question aussi de la gestion des émotions, d'exprimer ses émotions. Comment est-ce que j'envoie ces messages à mon interlocuteur, en tout cas mon camarade en face. Tout ça, c'est un ensemble, et c'est ce qui devrait en tout cas être travaillé. Donc les programmes vont être affinés là, avec le Conseil supérieur des programmes. Mais je crois que c'est vraiment le sujet, en tout cas, principal. Je voudrais juste revenir sur une deuxième chose également.
Vas-y, Hugo.
Il y a beaucoup à dire et sur le sujet. Sur la question, en fait, de la prévention, je crois qu'il ne faut pas aussi oublier la question de l'après. Et ce qui est intéressant dans ce plan interministériel, c'est que malgré tous les efforts, malgré tout ce qu'on mettra comme moyen sur la prévention, on aura toujours des victimes. Je crois que c'est vraiment, en fait, la réalité qu'il faut se dire. C'est que, je ne veux pas être alarmiste, hein, ce n'est pas l'idée, mais le harcèlement scolaire a toujours existé, il existera toujours. Et ce sont ces victimes qu'il faut qu'on prenne en charge aussi. Parce qu'on le voit bien, Nicolas, il a parlé. La prévention, elle a marché puisqu'il a parlé.
Ouais.
Mais c'est nous, adultes, qui n'étions pas au rendez-vous. Donc je crois que c'est vraiment quelque chose d'important. C'est comment est-ce qu'une fois qu'il y a une victime qui est détectée, qui est diagnostiquée, et c'est là où justement, dans le plan, il y avait ce volet 100% solution. C'était vraiment l'une des ambitions du plan. C'est comment est-ce qu'on répond à tout cela. Je crois que c'est vraiment l'enjeu, hein, sur lequel il faut travailler. Et en effet, je rejoins tout à fait le sujet de dire, on parle beaucoup des plus jeunes âges et du collège, mais il y a aussi des choses au lycée qui se passent. Et je rajouterais même de dire que le harcèlement scolaire ne se ferme pas aux portes du bac. On oublie souvent de parler du harcèlement scolaire en post-bac.
Ouais.
Mais c'est d'autant plus important qu'en fait, dans le post-bac, il y a de plus en plus d'alternance, de stages, etc. On a des jeunes, on le voit, qui sont confrontés à l'école ou à l'université au harcèlement scolaire et au travail, au harcèlement au travail. C'est difficile.
C'est intéressant. Oui.
Mais je crois qu'il ne faut pas l'oublier.
Y a aussi, moi, je vous entends parler depuis tout à l'heure et il y a un consensus là, autour de ce plateau sur la nécessité de réapprendre le vivre ensemble, de donner des cours d'empathie. J'ai parfois l'impression qu'on est face à un débat public qui se braque et qu'on va très rapidement objecter à ça en disant « Mais attendez, là, toutes vos histoires... le but de l'école, c'est d'abord d'apprendre à lire, écrire, compter, les maths, tout ça. Enfin, c'est, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a une partie du débat public autour de l'école qui est en train de revenir en arrière sur des avancées qui pourtant avaient l'air un peu gravées dans le marbre ? Je ne sais pas, quand vous entendez parler de d'uniforme à l'école, est-ce que c'est quelque chose que vous soutenez ? Est-ce que ça vous fait doucement sourire ? Je ne sais pas.
Oui, ça fait... Bon, en tout cas, en ce qui concerne l'uniforme à l'école, mais je crois qu'on se rejoint sur cette situation-là. Enfin, quand on agite la question de l'uniforme, on ne traite pas des vraies questions que connaît l'école. Aujourd'hui, l'école, elle est confrontée à des situations de harcèlement au milieu scolaire, elle est confrontée à de l'échec scolaire, elle est confrontée à de la violence. Et effectivement, c'est un défi qui est phénoménal, qui est posé à tous les personnels de l'éducation nationale, mais aussi à toute la société. Et c'est vrai que plutôt que d'agiter ces pseudo-solutions, on aimerait bien avoir un vrai débat public, et je dirais même un vrai débat politique sur ce qu'est l'école aujourd'hui. On ne l'a pas beaucoup, il est souvent très, très réducteur. Mais si on veut vraiment poser les vraies questions et y répondre, c'est que veut-on faire de l'école demain ? Est-ce qu'on veut en faire un lieu où les élèves apprennent, où les élèves s'émancipent, où les élèves apprennent à vivre ensemble ? C'est un peu toutes ces questions auxquelles on doit répondre. Nous, on pense qu'on peut, à l'école, on peut faire tout ça. À l'école, on a des choses à apprendre, des savoirs à apprendre pour savoir se débrouiller dans la vie, mais c'est aussi le lieu où on apprend à vivre ensemble. Et ça, c'est une ambition qu'on doit pouvoir porter avec, bien évidemment, suffisamment d'adultes, avec aussi de la considération, parce que l'école, elle manque souvent de considération. Moi, dans le débat public et politique, le nombre de fois où les profs deviennent les responsables et les boucs émissaires de tous les maux de la société, c'est aussi pesant quand on est prof. Et je pense qu'il faut que tout le monde l'entende. On essaye de faire beaucoup de choses. On est souvent démunis, on est souvent seul. C'est le cas sur la question du harcèlement. Mais il faut vraiment qu'il y ait une mobilisation générale autour de l'école, qu'on lui donne les moyens de fonctionner et qu'on entende aussi un peu ce message-là, plutôt que de nous dire, tenez, mettez tous un uniforme et tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes.
Laurent.
Moi, je partage le point de vue de Sophie sur la nécessité d'un débat politique, au vrai sens des choses qu'on doit construire ensemble. On a aussi un système éducatif extrêmement sélectif qui ne dit pas son nom. Le collège est une énorme machine de tri social, et on ne le dit pas. On a des programmes qui sont peu adaptés à une grande partie de la population scolaire. Ça revient à des questions de formation initiale, de formation continue, mais c'est des vrais enjeux. Et c'est des sujets qu'on lève si on décide d'en parler et de prendre des décisions. On ne changera pas les choses demain matin. Mais par contre, de décider de s'en emparer et de regarder, de se donner des directions pour dans 5 ans, pour dans 10 ans. Nous, ce qu'on a dit au SGEN CFDT, au ministre en début de semaine, c'est que c'était quand même étonnant qu'aucun adulte, professeur du premier degré, professeur du second degré, n'ait une formation en développement psychologique de l'enfant. Juste comment ça se passe quand c'est normal. En fait, ça ne fait pas partie de la formation initiale des enseignants. Moi, j'ai fait d'autres métiers, d'autres métiers que l'école, mais d'autres métiers que personnel de direction dans l'institution. J'ai été CPE. Et quand j'étais CPE, il y a 25 ans, en formation initiale, on avait une formation sur la psychologie de l'adolescent que nos collègues enseignants n'avaient pas. Et on n'avait pas tellement de formation commune avec les collègues enseignants avec lesquels on allait travailler une fois qu'on aurait fini notre formation. Mais ça, ça veut dire, comme dit Sophie, c'est un débat politique, ça veut dire des moyens, ça veut dire d'investir. Et c'est le premier budget de l'État, hein, l'éducation. Donc c'est vraiment une
première administration d'Europe.
Voilà. mais il y a des choses. On a tous un travail à faire là-dessus. Et puis c'est un problème de société. Il y a aussi à discuter avec les parents d'élèves.
Oui.
Quel est le rôle des parents dans l'accompagnement, dans l'éducation, et quelle place l'école fait aux parents? Parce que c'est souvent aussi.
La communauté éducative.
Facilement enclin à convoquer des parents plutôt qu'à les inviter. Enfin voilà, on a nous un travail à faire là-dessus qui
me paraît important. Je pense qu'on est arrivé au bout d'un système avec le ministère de l'Éducation nationale qui doit se réadapter, s'organiser avec aujourd'hui l'évolution de la société, l'évolution de nos enfants. On est resté sur un système de réussite. On a oublié justement d'intégrer toutes ces compétences psychosociales. On oublie de faire en sorte que les enfants, entre eux, doivent s'aider, s'accompagner. C'est pour ça, pour en revenir sur le harcèlement. Malheureusement, on doit passer par des sujets comme le harcèlement pour se rendre compte des failles du système. C'est pour ça aussi que tout ce qui est élève ambassadeur, et je vous invite tous les jeunes à vous inscrire en tant qu'élève ambassadeur, parce que c'est comme ça qu'on va arriver à s'en sortir.
Alors ça consiste en quoi, du coup ?
Les jeunes, entre eux, qui s'entraident, un élève ou un jeune ambassadeur, c'est quelqu'un qui a une responsabilité en rapport avec les cellules référents harcèlement de l'établissement pour repérer les personnes isolées, les personnes en souffrance. C'est quelqu'un qui va pouvoir l'accompagner, essayer d'estimer la problématique et ensuite pouvoir l'aider à aller en parler, puisque la personne seule, elle ne va pas aller en parler. Et donc, à partir du moment où la situation est déclenchée, la personne va pouvoir suivre. Mais le fait est de pouvoir avoir quelqu'un qui vient nous voir quand on est en souffrance et en danger, qu'on dit, écoute, on va se poser, on va en parler, et de repérer les situations tout jeune. Alors aujourd'hui, c'est dans le collège, il n'y a pas encore les élèves ambassadeurs au niveau du lycée. Nous, on les forme, chez Marion l'a attendu, on forme justement les lycéens. Donc je vous invite à vous contacter si vous voulez le faire. Et après, justement, à aller dans les établissements, parce que ça c'est vraiment essentiel. Si. Et juste pour finir, il y a un point que vous avez soulevé qui est extrêmement important sur tout ce plan, c'est les sous. Les sous.
Bah, oui.
Les moyens, ils sont où? Parce qu'on n'en a pas entendu parler, des sous. Voilà. Donc il y a plein de belles choses qui sont faites, mais il y a beaucoup de choses encore qu'on aimerait faire, et pour l'instant, on n'a pas les sous.
Si on se donne rendez-vous dans quelques années, tous les quatre, et qu'on analyse la situation, sur quels critères est-ce que vous estimerez que ce plan a fonctionné? Comment est-ce qu'on peut se dire que ça a marché?
On aura des chiffres biannuels, deux fois par an en tout cas, donc on verra une évolution. Le Danemark, cours d'empathie, on est passé 37% à 7% des jeunes victimes de harcèlement scolaire. C'est radical.
Donc
ça, c'est un premier point. Moi, deuxième point, je vois les discussions. Je me permets de rappeler le 30-18, qui est un numéro où ils peuvent, parce que je vois que des jeunes parlent de leur témoignage là sur le chat.
Oui.
Si on peut rappeler peut-être le 30-18, qui est un numéro vert gratuit avec l'application qu'ils peuvent utiliser gratuitement pour signaler, c'est important. C'est une petite parenthèse.
T'as raison.
Je pense que c'est important qu'on fasse aussi, qu'on allie l'utile à l'agréable. Le deuxième point, je voulais juste revenir. Je crois qu'en fait, le paradigme qu'il faut qu'on ait maintenant tous, et c'était un peu le sens du plan aussi présenté hier par le gouvernement, c'est plus de se dire, est-ce que la classe dans laquelle je suis que j'ai en tant que professeur a du harcèlement scolaire ou pas? Parce qu'en fait, maintenant, toutes les classes sont concernées. La question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce que maintenant, on traite finalement ces... ces cas qui nous sont remontés. Je crois que ce qui est intéressant dans cette relation élève, professeur, parent, ce formulaire d'auto-évaluation qui va être distribué à tous les enfants là, le 9 novembre, je crois qu'il va recréer, je suis intéressé d'avoir votre avis justement aussi là-dessus, je crois qu'il va recréer le dialogue avec, entre les parents, les élèves et les professeurs. Ouais. Ce questionnaire, il sera anonyme. Donc, on aura des remontées des nombres de cas, mais on ne saura pas qui, finalement. Et donc, les parents, ils vont avoir aussi un questionnaire un peu de, pour ouvrir le dialogue le soir à la maison. Et l'idée, c'est que vraiment, à un moment, il y a un échange entre professeurs ou enseignants et enseignantes et parents, du coup, et que ça puisse vraiment se reconnecter ce lien et ce contrat entre parents, professeurs et élèves.
Sophie, ce sera le mot de la fin.
Oui, je pense qu'effectivement, si on se donne rendez-vous dans 4 ans, et peut-être même qu'on se donnera rendez-vous avant, vu l'urgence qu'il y a la situation sur la lutte contre le harcèlement en milieu scolaire, il faudra qu'on garde l'évolution des cas, mais tout simplement le climat scolaire, et c'est ce que disait Laurent en commençant, est-ce que finalement les adultes et les élèves vont bien à l'école ? Je pense que ça sera ça un élément important avec le nombre de cas, avec le nombre d'élèves dans les classes, avec le bien-être aussi de toute la communauté éducative dans les établissements scolaires. Et tout à l'heure, on parlait de débat politique. Finalement, le débat politique, il est là. Est-ce qu'on va continuer à accepter longtemps d'avoir une école où il y a du harcèlement au milieu scolaire, où il y a 35 élèves par classe, où on a les classes les plus chargées et où tout le monde souffre en fait ? Les élèves souffrent d'être dans des classes chargées. Les profs souffrent d'avoir des classes les plus chargées d'Europe et où ils ne peuvent pas faire leur travail et détecter ce qui ne va pas. Donc si on se donne rendez-vous dans 2 ou 4 ans, c'est de voir bien évidemment les chiffres, mais aussi je dirais le côté humain. Parce que notre école, elle doit d'abord être humaine et aujourd'hui, elle ne l'est pas.
Merci à tous les quatre. Je rappelle l'asso-hugo.fr, vous pouvez découvrir. Marion La Main Tendue, vous pouvez là aussi vous engager, devenir ambassadeur dans vos établissements scolaires. On rappelle le numéro de téléphone, le 3018. N'hésitez surtout pas à l'appeler.
Gratuit.
C'est gratuit, c'est anonyme. Si vous avez besoin de. Enfin voilà, si vous ressentez le besoin de témoigner et de vous faire accompagner et aider, n'hésitez surtout pas. Bonne année scolaire à tous les deux. Bon courage. Merci à tous les quatre d'être venus sur ce plateau. C'est la fin de ce Before. On se retrouve après un générique pour le début de l'émission. À tout de suite.